Son histoire est racontée par Le Parisien. Nous sommes en mars et Oleksandra vit encore avec ses quatre chiens à Kharkiv, en Ukraine, sous les bombes. Mais une grande partie de sa famille, et notamment sa mère, est en Russie, à 750 km de là. Au début de la guerre, lorsqu'elle parle à sa mère, Oleksandra ne veut pas l'effrayer. Elle atténue son récit, elle euphémise. Puis elle commence à raconter petit à petit ce qu'elle voit, ce qu'elle sait, les bombardements de civils, les enfants qui meurent, les immeubles éventrés, les crimes de guerre. Elle a sûrement besoin de soutien. Bien que sa famille s'inquiète pour elle, ses parents ne croient absolument pas un mot de ce qu'elle dit. Ce sont soit des accidents, disent-ils, soit des frappes ukrainiennes de propagande pour accuser les Russes. Les parents d'Oleksandra pensent, oui, que ce sont les Ukrainiens qui tuent leur propre peuple. Comme elle, ils sont aujourd'hui des centaines d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes à raconter le même déchirement, l'impossible dialogue, la surdité de leurs cousins, de leurs frères ou de leurs mères restés en Russie. Trois d'entre eux racontent tout de suite à Alain Levkovitch.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Dmytro Kouchnir, j'ai 42 ans, marié, deux enfants, résidant à Kiev, entrepreneur et musicien. Mon épouse est à moitié russe, donc sa mère, qui est donc ma belle-mère, est russe. Mon épouse est née en Russie, mais toute petite, la famille a déménagé en Ukraine, à Kiev, donc ça fait plus de 40 ans, et ma belle-mère également vit en Ukraine depuis tout ce temps-là. Et une partie de la famille, donc les cousines, les tantes, etc., reste toujours en Russie, donc il y a une bonne partie de famille du côté de mon épouse qui reste en Russie. Depuis 2014, les conversations sont compliquées entre eux, parce que déjà à l'époque, on n'avait pas du tout la même vision des choses. Ils pensaient que la Crimée, c'était bien que la Crimée rejoigne la Russie, que au Donbass, il y a eu des soi-disant républiques autoproclamées. Et ben nous, naturellement, on n'était pas d'accord. Donc ils en ont parlé, mais à un moment donné, quand ils ont vu que ça se passait pas bien et que ça ne faisait que créer des tensions entre les différents membres de la famille, ils ont dit bon ben on n'en parle plus et ça a resté au niveau de vraiment basique quoi, des conversations. Et là, quand cette nouvelle vague de guerre, parce que nous en Ukraine on considère que c'est la guerre qui dure depuis 2014, et là c'est une nouvelle vague. Donc à grande échelle, quand cette nouvelle vague a commencé, bien sûr, mon épouse et sa mère ont envoyé des messages en Russie, à leur famille en Russie, en disant mais est-ce que vous voyez ce qui se passe, etc. Et donc il y a deux grands messages qu'on peut retenir de ce qu'ils disaient, c'est que tout d'abord c'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre avec les Américains ici. C'est ce que les Russes disent, hein. Donc c'est la guerre avec les Américains et que les militaires russes ils sont pas là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est qu'une opération spéciale de libération. Enfin, c'était clairement la reproduction des grands messages de la propagande russe, donc vraiment presque mot à mot ce que disent les médias russes. Et je pense que là les échanges se sont arrêtés là parce que Vraiment, ils n'ont pas du tout la même vision, enfin la vision réelle, je dirais, parce que nous, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, et ils n'ont pas du tout cette vision-là, et ils ne voient que ce que leur montre leur télé. Quoi. Mon épouse, ça la rend triste, bien entendu, de ne plus pouvoir trouver le langage commun avec ses cousines en Russie. Mais en même temps, elle était quelque part prête à ce type de réaction. Et elle dit, oui, bah, c'est aberrant, ils sont complètement lobotomisés, ils voit pas du tout la réalité des choses, mais c'est comme ça. Elle connaît très bien la raison pourquoi c'est comme ça. On voit que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de Russes. Donc, elle se dit, bon, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça. Puis point barre. On va pas pleurer tous les jours parce que ses cousines sont imbibées de la propagande. Voilà, quoi. Elle est triste, mais en même temps, elle le prend calmement. Ma belle-mère, elle le prend moins calmement, je dirais, parce que il s'agit vraiment de sa sœur avec laquelle elle n'arrive plus du tout à parler, quoi. Et nos enfants sont grands, c'est des adolescents, donc ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Ils voient très bien ce qui se passe. On ne limite pas. Enfin, on limite, on essaie de limiter, mais comme ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient tout. Ils sont élevés dans un esprit libre et ils ont accès à toutes sortes d'informations. Nous, on leur a appris de savoir trier les choses, de faire les bons choix, les choix que nous, on pense qu'ils sont bons. Donc, ils comprennent parfaitement la situation. Et ils savent aussi que en Russie, c'est comme ça. Quand on parle du blanc pour les Russes, c'est noir et vice-versa, quoi. Donc, ils le savent très bien et ils le prennent de manière, on va dire, résignée, calme. Je ne sais pas comment dire, mais ils se font pas de soucis pour l'instant avec ça. Notre cas, c'est pas un cas isolé, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de familles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de familles en Ukraine qui sont des deux côtés. Les gens ne se parlent plus et ça risque de durer jusqu'au moment où, de l'autre côté, en Russie, ils comprennent véritablement ce qu'ils sont en train de nous faire. Si ça continue comme ça, je pense que cette relation, elle est brisée pour toujours. Parce que ils soutiennent Poutine, ils pensent que c'est un mec bien, que ce qu'il fait c'est très bien, qu'il a tout à fait raison. Ils croient véritablement qu'il y a des nazis ici qui tuent des enfants, qui mangent des enfants, qui crucifient des enfants. Enfin, c'est des choses complètement surréalistes et ils y croient. Donc après ça, s'il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'avenir dans cette relation, quoi. S'ils nous disent pas excusez-nous. On savait pas, on comprenait pas. Là, on voit et là, on se rend compte de la violence qu'on vous a faite. Parce que nous, on vivait normalement, on vivait dans notre pays, on voulait construire notre pays, vivre librement, être maître chez soi. Et eux, ils viennent, ils disent :« Mais non, vous pouvez pas. On va vous dire comment il faut faire. » C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. On n'est pas comme ça. On veut vivre comme on veut.
Je m'appelle Artem, j'ai 32 ans, je vis à Kiev depuis 2007. J'ai fait des études de chimie à l'université de Kiev. Mais je suis né en Russie, à Omsk, et j'ai passé les 10 premières années de ma vie dans la région de Penzenskaya, dans un petit village. Et quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont divorcé et mon père est parti ailleurs en Russie. Et ma mère et moi, on a déménagé dans une ville qui s'appelle Makivka, près de Donetsk. Et aujourd'hui, je vis à Kiev. Ma mère est seule là-bas pour l'instant et à part moi, elle n'a pas d'autre famille. Elle a 54 ans.
So we have a quite different position with my mother about this situation.
Alors, on a une position assez différente, ma mère et moi, sur cette situation. On a eu des discussions très difficiles parce que ma mère est pro-russe et moi je suis pro-ukrainien. On a pris des partis opposés. Pendant des semaines entières, on ne pouvait pas avoir la moindre conversation. Puis on a trouvé quand même une sorte d'accord. Il y a eu une phase de stabilisation et on a trouvé un accord qui consiste à ne pas parler de politique. On parle de tout sauf de cette situation. Parfois, j'ai l'impression que c'est même pas avec ma mère que je parle, parce que ses arguments, c'est exactement ce que dit la télévision. Donc, c'est juste beaucoup de colère contre l'Ukraine. Et ils disent que là-bas, il y a des nazis, il y a des fascistes, que l'Ukraine est très pauvre et que tout est mauvais en Ukraine.
In the evening of the February 24th, just after their war started.
Le soir du 24 février, juste après que leur guerre a commencé, elle m'a appelé et elle m'a demandé, tu es en sécurité?
And when I said, Mom, there is no safe.
Et j'ai répondu, Maman, il n'y a aucun endroit sûr en Ukraine ce soir. À ce moment-là, il y avait déjà eu des bombardements sur des maisons de civils. Et je lui ai dit, Maman, c'est une vraie guerre. Et l'armée russe a commencé à bombarder des bâtiments civils, même à Kiev. Je le sais. Ce que je te dis est vrai puisque je suis là-bas. Mais elle ne m'a pas cru et elle a dit, ah, tu crois juste à la propagande? Ces Russes sont juste en train d'essayer de te sauver et ils ne bombardent que des cibles militaires. Et ça a donc été la fin de la conversation.
So from the one side, he asked me, "Are you safe?" So she trying to say it, that.
Et à partir de là, à chaque fois qu'elle me demande, "Tu es en sécurité?" Je comprends ce qu'elle essaye de me dire. Elle veut savoir si je vais bien et elle est inquiète pour ma sécurité. Mais d'un autre côté, elle soutient l'agression et l'occupation russe. Donc on doit décider quelle partie prendre parce qu'elle participe à cette agression. Elle participe à cette invasion.
She's a part of this aggression, part of this invasion. Now I don't feel anything to my mother as a relative.
Aujourd'hui, je ne considère pas ma mère comme un membre de ma famille. Je vois seulement qu'elle veut la mort de ma nation et qu'elle veut ma mort à moi personnellement parce qu'elle soutient tout ça.
When she supports bombing of Kiev,
quand elle soutient le bombardement de Kiev, elle soutient cette agression qui me touche moi, personnellement.
How can I feel it as my close relative?
Comment puis-je la considérer comme un membre de ma famille alors qu'elle soutient tout ça? D'un côté, je peux dire que c'est mon ennemi, pour l'instant en tout cas, mais d'un autre côté, c'est ma mère. On peut comparer ça à un enfant juif qui aurait des parents nazis, non?
But I can say that my communication with my mother was much better than with my father.
Mais je dois tout de même reconnaître que la communication avec ma mère est bien meilleure qu'avec mon père. Ça fait 10 ans que je n'ai aucun contact avec lui. Mon père a une nouvelle famille maintenant, et donc j'ai un demi-frère en Russie. Il s'appelle Roman et on communique tous les deux. Roman est plus jeune que moi, mais il fait preuve d'esprit critique et il ne soutient rien de tout ça, aucune guerre en Ukraine. Mais mon père, lui, soutient aussi cette guerre. Et on a aussi coupé toute communication, mon père et moi, après tout ça. Mais Roman m'a raconté que tous les jours, mon père regarde la télé et il peste contre la télévision. Et un jour, il a dit cette phrase, « Putain d'Ukrainiens, ils ont volé mon fils. »
France Culture, les pieds sur terre.
I am 34. J'ai 34 ans. Je travaille à distance et en freelance comme interprète et traductrice. Et je suis aussi musicienne, je chante. Avant d'arriver aux États-Unis, je donnais des concerts en Ukraine avec des groupes de reprise et puis avec un orchestre. Et quand je voyageais, je donnais aussi des concerts. J'ai fait partie d'un groupe en Chine. Je suis dans l'Illinois, à Woodridge. Je suis arrivée en fait bien avant le début de la guerre, en octobre. Le but de ce voyage ici, c'était de visiter le pays. Et à ce moment-là, mon copain, qui est maintenant mon mari, m'a demandé en mariage. C'était tout à fait inattendu, quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de dire à mes amis en Ukraine que j'étais mariée. Je me suis effondrée. Je suis tombée malade. J'avais toutes ces super nouvelles, je venais juste de me marier, j'essayais d'être heureuse. Mais un soir, on était sur le point de s'endormir et ma famille m'appelle et ils me disent « Allume la télé, la guerre a commencé en Ukraine ». Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon âme était morte. Mon cœur était en éclats, brisé, parce que je ne pouvais pas aider mon peuple. J'aide comme je peux, à distance, je traduis, je donne de l'argent, j'essaye de faire du bénévolat. Mais là, je peux vraiment pas partir parce que ma famille est inquiète. Ils ne veulent pas que je retourne en Ukraine, et moi j'aimerais y aller et faire du bénévolat, au moins en Pologne. Mais ils me supplient de ne pas y retourner. Donc pour l'instant, je reste ici. J'ai de la famille en Russie, j'ai mes oncles. L'un vit en Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014 et est devenu un territoire russe. Et l'autre vit à Saint-Pétersbourg. J'ai essayé de les joindre via mon neveu. Et depuis 2014, ils critiquent constamment le gouvernement ukrainien et ils disent qu'on diffuse des fake news et que tout ça n'est pas vrai, parce qu'en Russie, ils ont accès à des informations différentes et qu'ils croient leur président. Donc, quand la guerre a commencé, ils ont commencé à nous appeler, à appeler ma mère, ce qui la faisait pleurer, parce qu'ils lui disaient « Mais pourquoi vous êtes si bouleversée? Tout ça, c'est juste une opération militaire, et vous ne savez juste pas ce qui se passe. » Et moi, j'étais bouleversée et très en colère, parce que ma famille ne comprenait pas ce qui se passait, alors qu'ils sont ukrainiens. Maintenant, ils ont plus de 70 ans, donc vous imaginez, ils ont quitté l'Ukraine quand ils avaient 18 ans. Et ils ne comprennent pas quelle horreur est en train de se produire en Ukraine, et ils n'y croient pas. Mais ensuite, un peu plus tard, quand ils nous ont appelés, on a compris à les entendre qu'ils avaient peur de dire quoi que ce soit, parce que leurs appels étaient enregistrés. Et alors quand j'ai entendu qu'ils étaient en train de se moquer de ma mère, qu'ils ne la soutenaient pas, j'ai exigé qu'ils arrêtent de parler de manière aussi irrespectueuse et qu'ils comprennent qu'on est en guerre et que la Russie a attaqué l'Ukraine et envahi son territoire souverain. Et j'ai commencé à leur envoyer des informations et j'ai été choquée en découvrant que mon neveu croyait à la propagande et au récit que mon oncle colportait. Et je lui ai dit « Tu devrais te souvenir que tu as du sang ukrainien. Tu devrais avoir honte de ton gouvernement et d'avoir décidé de rester en Crimée au lieu de retourner en Ukraine, de soutenir ton pays. » Et il m'a dit, tu sais, la Russie m'a donné davantage que l'Ukraine. Quand la Crimée a été annexée par la Russie, la Crimée est devenue un meilleur pays. Et je lui ai dit, mais tu sais que beaucoup de Russes vivent bien en dessous du seuil de pauvreté? Que la Crimée, c'est juste de la comédie pour frimer? Mais tu suis l'actualité? Et il n'a rien voulu entendre de ce que je lui disais. Pas une information, pas une enquête menée par des journalistes indépendants, et pas une seule nouvelle à propos de la situation actuelle. Il m'a aussi dit une chose qui m'a tellement blessée que tout ce qui se passe en Ukraine, c'est à cause des néo-nazis, que c'est pour ça qu'il y a la guerre. Et ils disent que c'est de notre faute. Ils parlent mal de notre président. Et ils pensent que tout ça est une vaste mise en scène, que l'Ukraine est en train d'attaquer et de bombarder ses propres villes et de tout détruire. Et donc, depuis ce moment, j'ai arrêté de leur parler.
My great grandfather was.
Mon arrière-grand-père a été fusillé par le pouvoir soviétique parce qu'il était prêtre et qu'il était considéré comme un ennemi du peuple. Et puis mon grand-père, lui, a été envoyé à la guerre, au front, dans les zones à risque, quand il avait 18 ans. Mon arrière-grand-père a été fusillé en 1934. Et mon grand-père a été envoyé à la guerre aussi à cause de ça, parce qu'il était le fils d'un ennemi du peuple. Et le pouvoir soviétique, à l'époque, déplaçait beaucoup de familles en Russie. C'est pour ça qu'on a des origines mélangées. Beaucoup de familles ukrainiennes ont été déplacées en Russie. On leur a fait changer leur nom de famille en un nom de famille russe pour qu'ils aient l'air russe. On les a fait parler russe. Ils n'avaient absolument pas le droit de faire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui parlent russe en Ukraine aujourd'hui. Parce que la culture ukrainienne a été constamment effacée et parce que la culture russe était massivement imposée par la contrainte à la place de la culture ukrainienne. J'ai grandi en écoutant des chansons russes, en regardant des films russes, en lisant beaucoup de Dostoïevski et de Tolstoï. Je parle ukrainien, c'est ma langue principale, mais je parle russe, contrairement aux Russes qui, eux, ne savent pas le moins du monde parler ukrainien. Mais on devait parler russe parce que la Russie a toujours imposé son contrôle et son pouvoir partout en Ukraine. Puis ils ont commencé à dire qu'on était des nations sœurs, qu'on était connectées. Mais avec la guerre en ce moment, entre 2014 et aujourd'hui, ils ont détruit beaucoup de familles. Ma mère est ukrainienne. C'est une vraie patriote. J'ai essayé de la faire déménager en Europe. J'ai aussi envisagé de la faire déménager aux États-Unis. Mais elle m'a dit, je ne partirai pas. C'est mon pays, c'est ma patrie. Je reste ici. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Et j'ai du mal avec tout ça parce que j'espère que la région où elle habite ne va pas être bombardée, comme les régions du nord de l'Ukraine, de l'est et du sud, et même de l'ouest en ce moment. Beaucoup de familles doivent affronter la perte de l'un des leurs. Pas seulement une perte physique, mais aussi une perte psychologique. Parce qu'ils ne peuvent pas communiquer à cause de leur famille du côté russe qui s'est juste complètement fait laver le cerveau. Ils ne veulent pas entendre la vérité, même quand je leur dis « S'il vous plaît, je vous envoie non pas des informations venues d'Ukraine, mais des informations de France, d'Allemagne, des États-Unis, de partout dans le monde où il y a des journalistes qui enquêtent, qui viennent aussi en Ukraine pour raconter ce qui se passe. » Et ils répondent « Non, tout ça, c'est le monde occidental. Ils nous mentent. » Peut-être que je ne devrais pas autant juger ma famille, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'ils vivent sous ce régime, même si Poutine n'est au pouvoir que depuis 22 ans. Ils ne connaissent rien d'autre. On parle de gens simples, de la classe moyenne, et ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion de voyager pour parler à des gens en dehors de leur pays, pour avoir une vision différente de la question, de la situation. Et malheureusement, cela brise la connexion qu'ils avaient avec nous. S'ils ne changent pas d'avis, je ne veux pas rester en contact avec eux. Je l'ai dit à ma mère. Je ne peux pas accepter ça, que des gens meurent en Ukraine au 21e siècle. Des enfants meurent, des femmes sont violées, et les Russes sont juste inquiets de savoir s'ils vont pouvoir acheter du sucre, ou du fait qu'IKEA soit fermé, ou que McDonald's ne rouvre pas. Mais où est le visage humain dans tout ça? Il y a des gens qui perdent leur famille, qui perdent tout ce qu'ils ont, juste parce qu'un homme a décidé dans un mouvement de folie capricieuse qu'il voulait être empereur et faire advenir à nouveau un empire russe. Je suis complètement bouleversée. Bouleversée n'est même pas le bon mot. Je souffre profondément. Je ne suis pas une personne colérique, mais ça, je n'oublierai jamais. Ça s'appelle « Réveillez-vous ». C'est en ukrainien et le message principal, c'est « Ouvrez les yeux et regardez au fond de votre cœur pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Soyez honnête avec vous-même. Ne soyez pas un somnambule. »
Кожної пташки є своя поля, людини ж свій шлях, який має пройти. Я знаю, буває на серці так важко, не хочеться жити навколо душі. Здається, зруйновано все і нічого не буде, весь світ у жахливому сні.
C'était Mes parents en Russie, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Liscom avec un coup de main de Yaël Mandelbaum et mixé par Philippe Thibault. Merci à Victoria, Tatiana, Artem, à Dmitro, Kousnir et à Yachour. Merci également à Oksana et à Micha. C'est Boris Pinault et Jeanne Copet qui ont fait la trad de cette émission et c'est Justine Calais, notre stagiaire avec Amazir Bourala.